a language which is speechless.
Imaginez-vous dans un pays étranger. Comme vous y allez séjourner un bon moment, vous essayez d'apprendre la langue. Au moment où vous commencez à apprendre cette nouvelle langue, juste avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit, vous commencez à oublier votre propre langue. Plongé dans l'étrangeté, vous vous retrouvez sans langage. C'est ici, dans cette géographie du non-langage, cet espace négatif, que je peux commencer à décrire le bodybuilding, car je décris ce qui rejette le langage. Elias Canetti, qui a grandi au milieu de nombreuses langues parlées, ouvre son autobiographie avec l'évocation d'un souvenir, le premier de sa vie. Il y est question de la menace de la perte du langage. Mon souvenir le plus ancien est baigné de rouge. Je sors par une porte, sur le bras d'une jeune fille, le sol devant moi est rouge. À gauche, une descente d'escalier, rouge également. Un homme s'approche de l'enfant en souriant. À sa demande, l'enfant tire la langue, puis l'homme sort un canif et porte la lame tranchante contre sa langue rouge. Il dit « Maintenant, on va lui couper la langue. » Au dernier moment, il retire le couteau. Selon ses souvenirs, la scène se répète chaque jour. La journée commence ainsi, ajoute Canetti, et cela se reproduit fréquemment. Je suis à la salle de sport tous les 3 ou 4 jours. Que s'y passe-t-il? À quoi le langage ressemble-t-il dans cet espace? Un cliché veut que les athlètes soient des gens stupides. Comprendre par là qu'ils ne savent pas s'exprimer. Le langage parlé des bodybuilders vient confirmer la réalité de ce cliché. Dans la salle de sport, le langage verbal est minimal et pratiquement inepte, réduit à des chiffres et quelques noms. Série, flexion, répétition. Les seuls verbes sont « faire » et « céder ». Les adjectifs et les adverbes n'existent plus. Les phrases, si tant est qu'il y en ait, sont simples. Ce langage parlé s'apparente au jeu de langage, proposé par Wittgenstein dans le cahier brun. Dans une salle de sport, le langage parlé ou le langage dont la finalité et le sens se manifestent uniquement lorsqu'il est sur le point de disparaître. Mais quand je suis dans la salle de sport, j'ai l'impression de plonger dans un monde complexe et foisonnant. Que se passe-t-il réellement lorsque je pratique le bodybuilding? Il faut plusieurs minutes pour franchir le seuil séparant le monde défini par le langage verbal et la salle de sport, dans laquelle le monde extérieur, avec l'ensemble de ses langages, n'est pas admis. En ce sens, la salle de sport est sacrée. Ce qui se passe durant ces quelques minutes est que je commence à oublier. Des masses de pensées tourbillonnantes, verbalisées dans la mesure où je les perçois consciemment, disparaissent à mesure que l'esprit ou la pensée se concentre. Afin d'analyser cette concentration, je dois d'abord décrire le bodybuilding en termes d'intentionnalité. Le bodybuilding est un procédé, un sport peut-être, auquel une personne recourt pour sculpter son corps. Cette pratique est inséparable du développement de la masse musculaire. Les exercices d'aérobic et l'entraînement en circuit font travailler le cœur et les poumons. Mais pour que les muscles se développent, il ne faut ni les faire travailler, ni les faire bouger, mais en réalité les briser. D'après la loi générale du bodybuilding, un muscle brisé de façon maîtrisée, auquel on apporte ensuite les facteurs de croissance appropriés, tels que des nutriments et du repos, s'accroîtra en se régénérant. Afin de briser ces zones musculaires spécifiques, quelles que soient celles que l'on veut développer, il est nécessaire de les faire travailler de manière isolée, jusqu'au point de rupture.
Fifi était une petite fille tout à fait extraordinaire. Ce qu'il y avait de plus extraordinaire chez elle, c'était sa force. Il n'existait pas, dans le monde entier, un policier aussi costaud qu'elle. Elle était même capable de soulever un cheval si elle en avait envie, et cette envie la prenait de temps en temps. Elle possédait un cheval, qu'elle avait acheté avec une de ses nombreuses pièces d'or, le jour même de son arrivée à la villa Drôle de Repos. Elle avait toujours rêvé d'avoir un cheval à elle. Le cheval trônait désormais sous la véranda. Mais quand Fifi avait envie d'y prendre son 4 heures, elle soulevait le cheval et le déposait dans le jardin, comme si de rien n'était.
J'allais concourir pour le titre de Monsieur Univers, j'allais battre des records en soulevant de la fonte. J'irai à Hollywood, je deviendrai l'égal de Rec Park. Ce scénario était devenu si clair dans mon esprit qu'il fallait qu'il se réalise. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était ça ou rien. Ma mère a tout de suite remarqué que quelque chose avait changé en moi. Je rentrais à la maison avec un grand sourire, je lui avais parlé de mon entraînement, et elle voyait que la musculation me comblait. Mais au fil des mois, mon obsession a commencé à inquiéter ma mère. Sur les murs, au-dessus de mon lit, Il y avait des boxeurs, des lutteurs professionnels, des haltérophiles, des athlètes de force. Et surtout, il y avait des culturistes en train de poser, notamment Rec Park, Steve Reese. Bon, Steve Reese, c'est un peu comme Rec Park, hein, c'est pareil, il a fait du culturisme et il a fait des péplums aussi.
D'accord.
Bah, les deux, d'ailleurs, ils ont joué Hercule, hein, comme par hasard. Bon, elle, tu vois, elle a carrément... Bon, moi, ma mère, elle est pas allée jusque-là, quand même. Mais elle, tu vois, sa mère, elle est carrément allée voir un spécialiste, un docteur, en disant « Ouais, mon fils, il est pas normal, il colle des affiches dans sa chambre de mec, alors que ça devrait être des filles. »
Ouais, mais enfin, pour l'époque...
Et le médecin, ah, non, regarde ce qu'il a dit, le médecin. Ce médecin, il a répondu quelque chose, quand même. « Madame Schwarzenegger, a répondu le médecin, il n'y a rien de mal à cela. Les garçons ont toujours besoin d'inspiration. Ils se tournent vers leur père, mais souvent, c'est pas suffisant. Donc, l'inspiration, il faut la chercher ailleurs. » Donc, en fait, le médecin a dit, c'est en réalité une bonne chose, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, tu vois. Donc, lui était normal, donc je suis normal, donc tout va bien.
Heureusement que c'est normal.
Il se mit à souffler comme un phoque, inspirant et expirant fortement, les bras tendus devant lui, les poings serrés, le buste penché en avant, les jambes légèrement fléchies. Et tous ses muscles, de la gorge aux chevilles, gonflèrent, saillirent, puis frémirent tandis que les veines commençaient de dessiner leurs entrelacs sous la peau. Et Bill, la chauve-souris, continua de tenir la pose, les yeux vitreux, striés de rouge. Et maintenant, les différents muscles se départageaient les uns les autres, gonflant encore, comme s'ils avaient puisé dans quelque secrète source de sang.
Mon corps, mystérieusement, sut comment se comporter, sans peur, sans honte, avec un naturel qui me surprit, comme si faire l'amour pour la première fois allait de soi, contrairement à tout ce que j'avais entendu dire auparavant. Ensuite, il me sembla que je respirais comme jamais, de toutes les parcelles de ma peau, librement, enfin. Je m'étirais dans tous les sens, roulais dans le lit, ivre de plaisir et de fierté, je l'avais fait.
Et voici Facio, car ce n'est plus Caddy qui est là devant nous. C'est Facio, le génie lui-même, qui sort à reculons et à genoux. Car Facio est un génie captif et il est paralytique. À genoux, il danse devant l'orchestre. voici que sort la femme que l'on doit initier. C'est Zaba. Elle est possédée par Niaberi. Mais comme pendant les 7 jours, personne ne doit la voir, on lui a recouvert la tête d'un voile blanc. Et elle-même ne doit voir personne, c'est pour cela qu'elle a les yeux fermés. Niaberi, qui possède Zaba, est la mère de Fascio, qui possède Kadi. Aussi, tout à l'heure, nous verrons Fascio se précipiter sur sa mère pour lui téter les seins. Et maintenant, Fascio et Niaberi, à genoux, dansent devant l'orchestre. Une autre femme tremble, hurle, c'est Akoira. Elle est possédée par Zinibi. De temps en temps, le Zima, le prêtre, arrête la danse pour que la danseuse repose son corps fatigué.
14 août.
Je suis perdue. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste, éperdue, tremblant dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivée à mon siège, et mon siège adhère au sol de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh, oh, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu ? S'il en est un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi, pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture, quelle horreur.
On pourrait dire que le seul enjeu du bodybuilding est la rupture. Le bodybuilder qui s'exerce côtoie sans cesse la rupture. Je peux travailler une masse musculaire isolée, par exemple l'un des chefs du triceps, jusqu'au point de rupture. Pour ce faire, j'épuise le groupe musculaire jusqu'à ce qu'il soit incapable de bouger. Mais si je travaille le même groupe musculaire jusqu'au bord de la paralysie, je dois le stimuler jusqu'à dépasser le point de rupture. Je pratique alors ce qu'on appelle des répétitions négatives, en travaillant le groupe musculaire au-delà de ses capacités motrices. Voilà la seconde méthode de travail du point de rupture. Quelle que soit la méthode que j'ai choisie, je cherche systématiquement à faire travailler mon muscle, mon groupe musculaire, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Je cherche à échouer. Dès que je réussis une tâche spécifique, tel poids pour tant de répétitions en un temps donné, je dois accentuer un aspect de l'équation, alter, répétition ou intensité, afin d'atteindre à nouveau le point de rupture. Je veux déchirer mes muscles pour qu'ils se développent, mais je ne veux pas briser mes muscles au point d'empêcher leur développement. Pour éviter les blessures, je commence par échauffer le groupe musculaire, puis je le mène prudemment vers le point de rupture. Je m'y prends en faisant travailler le groupe musculaire à travers un nombre prédéterminé de séries pendant une durée prédéterminée. Si j'essayais immédiatement de conduire le groupe musculaire au point de rupture, en soulevant le poids le plus lourd que je puisse supporter, je risquerais de me blesser. Je veux développer mon corps en le soumettant à un choc. Je ne veux pas le blesser. Dans le bodybuilding, la rupture est donc inséparable de l'acte de compter. Je calcule le poids à utiliser, puis je compte le nombre de fois que je soulève ce poids et les secondes qui séparent chaque répétition. Voilà comment je contrôle l'intensité de mon exercice. Intensité fois mouvement du poids maximum égale déchirure musculaire, croissance musculaire. L'équation entre la destruction et la croissance est-elle aussi une formule pour l'art ? Le bodybuilding est une affaire de rupture parce que le bodybuilding, le développement et la sculpture du corps, fait face à la matérialité, à l'inexorable mouvement du corps vers son ultime point de rupture, vers la mort. Pour briser un groupe musculaire précis, je veux faire travailler ce groupe dans toutes ses capacités, voire au-delà. Pour ce faire, il est utile et même nécessaire de visualiser la partie du corps que l'on sollicite. L'esprit ou la pensée, dans le bodybuilding, se concentre donc toujours sur les chiffres ou sur l'acte de compter, et souvent sur des visualisations précises. Certains bodybuilders disent que le bodybuilding est une forme de méditation. Que suis-je en train de faire quand je pratique le bodybuilding? Je visualise et je compte. Je mesure des poids. Je compte des séries. Je compte des répétitions. Je compte les secondes entre les répétitions. Je compte le temps, les secondes ou les minutes entre les séries. Du début à la fin de chaque exercice, afin de conserver l'intensité, je dois compter en permanence. Pour cette raison, le langage du bodybuilder s'apparente à un ensemble de noms réduits à son minimum, voire clos, et à des nombres qu'on répète, au plus simple des jeux de langage. Ce jeu de langage, nous l'appellerons le langage du corps.
Ya 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 me ya ya me.
Saluons aussi le professeur Zeiger, ornithologue polyglotte qui limite à s'y méprendre le chant ou le râle d'une soixantaine d'oiseaux, qui pourrait, grâce à son bagou, se fiancer avec une autruche, mais hésite à franchir le pas. Cambrelin, enfin, l'ictiologiste, est envoyé par Sadarmac. Ce dernier raconte partout qu'il a harponné Falafox en pleine mer des Sargasses, après l'avoir raté une première fois dans le détroit de Floride. Mensonge. Spécialiste sans exclusive, Pierrepont, Zeiger, Barouglio et Cambrelin n'ignorent rien non plus des fauves, des batraciens, des rongeurs, des mollusques, des ruminants, des primates ou des fruits de mer. Algernon leur confie Palafox pour expertise. Les quatre hommes font cercle autour de la cage de verre où l'animal exposé se tient enfin tranquille. Zeiger examine ses yeux, ses naseaux, son aigrette. Cambrelin son flanc droit, Barouglio s'accroupe, Pierrepont sa main gauche, on tourne. Pierrepont examine ses yeux, son groin, sa barbiche, Zeiger son bras droit, Cambrelin son dard, Barouglio son aile gauche, on tourne. Barouglio examine ses yeux, son bec, ses antennes, Pierrepont sa nageoire droite, Zeiger sa queue aplatie en truelle, Cambrelin son flanc gauche, on tourne. Cambrelin examine ses yeux, ses barbillons, ses cornes, Barouglio son ouïe droite, Pierrepont ses rectrices, Zeiger son bras gauche, on se regarde, certes, il faudrait pour bien faire disséquer par la fox. On y renonce. Certains organismes supportent mal d'être mis en pièces. Le cœur palpite d'anxiété qui passe de main en main et les effets du choc opératoire sur les caractères mieux trempés sont difficilement prévisibles. Un seul exemple, on a toute la peine du monde à lancer au galop un pur sang et carie. Contentons-nous donc d'effectuer quelques prélèvements dermiques, musculaires, sanguins, osseux et cartilagineux, ça ne devrait pas empêcher Palafox bien entraîné de mener son jockey à la victoire.
La pesée des concurrents avait lieu à 9h du matin dans la grande salle des congrès du Blue Flamingo. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Dans les deux camps, bandaison musculaire et intimidation diverses étaient de rigueur, en même temps qu'une feinte indifférence aux voisins et voisines, tous et toutes impatients d'exhiber ce qu'ils avaient apporté. Et visez un peu ce que vous devez battre, enfoiré. Vous n'avez aucune chance. Au mieux, vous vous chamaillerez pour la deuxième place. Durant les deux ou trois journées précédentes, l'ambiance avait été plutôt au coup de coude complice et au pincement de fesses amicaux. Terminé tout ça. Des deux côtés régnait un silence religieux que brisait seul l'appel du nom de celui ou de celle invité à monter sur l'énorme balance Toledo au cadran de verre rond comme la lune et au grand chiffre noir sur lequel l'aiguille rouge s'arrêtait en oscillant. Dans le camp des femmes, Russell et Wallace se regardaient en chiens de faïence. Toutes ces dames étaient en bikini et soutien-gorge de posing.
Ok, this is for the overall champion. And I think the contestants are ready. At this point in time, it's right there. The stage, this gentleman. Let's welcome the following contestants. Ranked number 27, Swampy, Sumetra Mechapu from Thailand. Number 35, Cesari, with Abdul Sama from Malaysia. 49, Arafan Mabesin from India.
City, right? Sangram Chowdhury from India. Three, two, three. Muhammad Salim Zami from New Guinea. 71. Mahdi Ayari from Iran. 88. Garisho Loma from Ukraine. And 95. Mostafa Mokaraki from Iran.
Au début, les femmes entrent en scène toutes ensemble et s'alignent côte à côte. Elles sont détendues. Le juge principal leur dit de se tourner d'un quart à droite, et elles se tournent d'un quart à droite, et restent comme ça pendant un moment. Puis il leur dit de se tourner d'un autre quart. Elles sont maintenant dos au juge. Elles sont toujours détendues. Le juge principal continue de leur demander de se tourner jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau face à lui. Les juges comparent, vérifient la symétrie, les proportions. Ils jugent de la texture de la peau, voient si elle est épaisse. Il faut qu'elle soit fine, que la couche de graisse entre la peau et le muscle soit la plus mince possible. Comment les muscles se démarquent les uns les autres, car il faut qu'ils soient bien définis, que chacun d'entre eux ressorte distinctement. N'était jamais senti aussi prête et détendue qu'au moment où tombèrent les premiers accords de Street Fighting Man, ses 90 secondes de posing libre. Elle prit chaque pose à la note près. Elle était une championne. Elle le savait. Une championne du monde. Une défaillance était impensable. Quand tomba le dernier accord, elle se figea dans sa pose et tint le mouvement, statue provoquant un tonnerre d'applaudissements qui vint battre à l'unisson avec son propre cœur. Elle n'était plus qu'un corps, la quintessence du corps. À chaque pas, ses muscles dorsaux se déployaient comme s'ils avaient été des ailes et qu'il allait s'envoler, mi-homme, mi-chiroptère. Il arborait, à la différence des autres bodybuilders, un visage détendu et souriant. Et si chaque muscle de son corps peu commun n'avait été tendu comme la peau d'un tambour, on aurait pu penser qu'il partait en promenade, tant sa démarche était légère et décontractée.
Viewers, the Colonel speaking to you live from Granger, British Imperial YouTube Broadcasting. Now, a discussion on my forum has prompted me to look out a record. Columbia DB 2201, Sound the Trumpet by Henry Purcell, sung by Isabel Bailey Soprano and Kathleen Ferrier Contralto, with Gerald Moore at the pianoforte. Here we go. My recording of this is rather out of date, so I thought I'd do it with the expert junior. Here we go. Some little wax on that. Right.
Thank you. absolutely superb. Hopefully you enjoyed it. Thank you and goodbye.
Les leçons d'élocution occupent maintenant l'essentiel du temps consacré à l'éducation de Palafox. Pour le reste, il ne s'agit plus que de corrections mineures. Sa démarche, par exemple, est encore un peu lourde, hésitante, ce qui n'aurait rien d'étonnant si son corps était effectivement dépourvu de membres. On le croirait à première vue, on prendrait le pari. Mais ce n'est qu'un tronc, s'écria même Franoin lors de sa capture. En réalité, le phoque possède bien deux pattes, assez semblables à des nageoires puisque leurs cinq doigts sont réunis par une palmure, grâce auxquelles il avance malgré tout, péniblement, comme s'il ployait sous un sac bourré d'échantillons géologiques. Il faudra que Palafox s'en débarrasse avant d'entrer dans le salon de la Gloriette, afin de circuler à l'aise entre les tables, et qu'il raccourcisse ses moustaches, surtout qu'il n'ait plus peur de sortir la tête des épaules. Il manie déjà beaucoup mieux la langue. « Léon, raconte-t-il souvent en faisant la roue. Léon, mais la suite de son histoire est moins claire. Léon, rabâche-t-il et il déploie une nouvelle fois les 150 plumes ocellées de sa queue. Léon, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr à moins qu'il n'ait voulu citer Tolstoï ou Trotsky. Mais en ce cas, Tolstoï ou Trotsky ?
Julie Roanne a lu « Penses-tu qu'avec ces muscles je puisse te porter ?» un texte de sa performance en 2015. Le Horla, de Guy de Maupassant, paru en feuilleton dans Gil Blas et La vie populaire, 1886. Et Fifi Brindacier, d'Astrid Lindgren, 1945.
Leslie Doumerc a lu « La vie au grand air », extrait de l'histoire du corps sous la direction de Jean-Jacques Courtine, paru aux éditions du Point en 2015. Elle a lu aussi des extraits de Palafox d'Éric Chevillard aux éditions de Minuit en 1990 et à nouveau Le Horla de Guy de Maupassant.
David Le Simple a lu La vie au grand air et puis Jeune fille de Anne Wiazemski, édition Gallimard en 2004. Il a lu aussi un extrait de Palafox.
Miles Oshie a lu en version originale Against the Ordinary Language, The Language of the Body de Cathy Acker, un extrait de Bodies of Work aux éditions Serpent's Tale en 1992.
Jean-François Carreau a traduit et lu Against the Ordinary Language, The Language of the Body, Cathy Acker.
Jonathan Ortega a lu Body d'Harry Cruz aux éditions Gallimard 1999.
Il l'a lu en étant enregistré dans le Parc Royal de Bruxelles. On a entendu des extraits du documentaire de L'Homme le plus fort réalisé par Louise Aymon, que nous remercions énormément de nous avoir laissé l'utiliser en 2014, et de Initiation à la danse des possédés, en court-métrage de Jean Rouch de 1949.
Nous avons écouté un concert de 2013 de Building Instruments, des extraits de musique d'entraînement. Nous avons aussi écouté « Will You Still Love Me Tomorrow » de Cheryls en 1961. On a entendu un quatuor pour saxophone et corps de piano de Florent Schmitt en 1941. Et puis « Pulse » de Zubi Zuva en 1996. Nous avons entendu « Sound the Trumpet » d'Henri Purcell de 1694, interprété par Kathleen Ferrier. Et puis nous écoutons actuellement
I want muscles.
Et à la technique était à nouveau Jean-François Henrion, que nous remercions.
C'était « Qu'est-ce que je vais faire de vous maintenant que vous existez ?» Une émission écrite, réalisée par David Le Simple et Julie Rouanne.